Salut à tous, c'est Jeudi Noir sur Radio Liberté à 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. Vous venez d'entendre Victims Family, New World, hors d'œuvre, un morceau de 1992 et qui va introduire ce soir une émission spéciale puisque nous avons des invités pour présenter un livre au cœur de l'actualité comme d'habitude. Hein, c'est un peu la marque de Jeudi Noir depuis au moins 15 jours. Et donc il s'agit d'un livre qui s'appelle Le Nouveau Monde, tableau de la France néolibérale aux éditions Amsterdam. Alors c'est sorti pour le coup il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, quelques mois. Et on a le plaisir d'accueillir ce soir eh bien, un certain nombre de contributeurs de cet ouvrage, alors qui est un ouvrage panoramique hein, avec de très nombreux articles, de très nombreux chapitres, de très nombreux contributeurs. Et donc on a donc le plaisir d'accueillir notamment Gatien ce soir qui rédige le prologue, ce qui n'est pas rien, ainsi qu'un certain nombre de textes dans le livre. Pour nous présenter ce panorama de la France néolibérale. Alors je vais passer la parole tout de suite à Michel qui est un peu le maître de cérémonie de l'interview ce soir pour tout de suite nous préciser un petit peu de quoi il s'agit dans ce livre fleuve et extrêmement fourni.
Alors c'est des Victims Family, hein, 1992, l'époque où on faisait encore de la bonne musique, avant que tout ne dégénère. Et donc, voilà, le Nouveau Monde, alors c'est un bon groupe.
Il y avait déjà des néolibéraux en 92. Hein.
Certes, mais il n'empêche qu'on faisait encore de la bonne musique. Et donc, c'est un gros pavé qui nous fait...
Tu parles du livre,
là. C'est 1000 pages, hein, un petit peu comme le néolibéralisme. Et, comment dire, mais qui est assez, pour ce que j'en ai vu, qui est assez agréable à lire. Il y a beaucoup d'articles très très courts. Donc c'est pas quelque chose, malgré le côté imposant du livre, hein, il est pas, comment dire, c'est pas une espèce de de machin illisible et réservé à des spécialistes. Je pense qu'il a été pensé justement contrairement à ça, quoi. Et donc avec Gatien, on s'était dit que dans un premier temps, on pourrait peut-être exposer un petit peu le projet éditorial, mais assez vite. Et puis ensuite, en venir à tes contributions, parce que c'est ce que tu as écrit, c'est aussi ce qui t'intéresse. Mmh. Et puis elles sont chouettes. Donc sur le projet éditorial, qu'est-ce qu'on peut dire Parce que c'est une espèce de tableau de la France actuelle, mais il y a une espèce de une périodisation historique implicite, ou c'est... ça n'a pas été pensé comme ça?
Non, alors, bon, d'abord, peut-être resituer le livre dans les éditions Amsterdam. C'est un livre qui appartient à une collection, en fait, qui s'appelle L'Ordinaire du Capital. La maquette est un peu différente, ça ne se voit pas graphiquement, mais en fait, ça appartient à une collection qui s'appelle L'Ordinaire du Capital, et c'est une collection où il s'agissait de rééditer ou de donner la possibilité de réécrire des grandes enquêtes sociales. Renouer avec le journalisme d'enquête sociale, le terrain où l'on court, et pour montrer un peu comment est-ce qu'on vit, on travaille aujourd'hui en France.
Alors oui, avant l'émission, on parlait de Stud Terkel, un journaliste américain, voilà, dont l'éditeur, dans le co-directeur de publication est fan, qui a mené de longues enquêtes aux États-Unis pour justement faire juste parler les gens, voilà, et leur faire raconter ce qu'ils avaient à dire.
Donc par exemple, moi dans cette collection, j'ai écrit un livre qui s'appelle La Plaine, récit des travailleurs du productivisme agricole. Et donc c'était une sorte de grand reportage social sur qui sont aujourd'hui les agriculteurs du productivisme. Et donc ce livre-là, il arrive un peu après 7-8 ouvrages précédents de cette collection, un peu comme une espèce de synthèse sur là où on en est politiquement aujourd'hui. Il s'agissait de pas faire un livre sur Macron. Parce qu'en fait, c'était un peu le risque, même éditorial, hein, de faire un livre qui soit un peu daté, vite périmé. Et puis, le néolibéralisme commence avant Macron. Et malheureusement, se poursuivra
après lui.
Après lui. Et donc, en fait, il n'y a pas vraiment de périodisation. Moi, par exemple, très concrètement, dans mes textes, je remonte parfois à 45, à l'entre-deux-guerres. Enfin, en revanche, ce qui est sûr, c'est que si on devait donner une périodisation, ce serait les 30-40 dernières années, quoi, depuis les années 70-80, depuis le tournant libéral de la gauche, depuis les grands renoncements des partis de gauche au pouvoir. Et donc, ce serait ça la périodisation, ce serait peut-être les 30-40 dernières années maximum.
D'accord. Et sinon, en termes de comment dire, il y a plusieurs grands chapitres dans le bouquin, de la façon dont ils vont décrire en quelque sorte un tableau. Et donc au début, ça part justement du séparatisme de la bourgeoisie. Donc ça, c'est il y a quelques chapitres qui sont intéressants sur l'idée que les riches ne veulent plus vivre avec nous d'une certaine manière. Et ce qui peut aussi parfois jeter une certaine lumière sur la façon dont on pourrait se dire, mais pourquoi ont-ils intérêt à laisser les services publics s'effondrer? C'est parce qu'en fait, ils n'ont plus besoin. Alors, la politique du capital, c'est ouvert par Halimi, par Serge Halimi.
Deuxième partie,
oui. Mmh. Donc, le mépris du pouvoir en troisième partie. Donc, ça y est, le monologue des travailleurs, ça, c'est une partie qui est très très belle avec beaucoup de présentations de portraits de travailleurs. Alors, travailleur ici, ça veut dire, ça peut être, une femme au chômage, comme un énarque qui a démissionné son truc. Donc, ça, c'est aussi pas mal. T'as contribué à ça, tu m'avais dit.
Ouais, j'ai fait deux portraits de travailleurs. L'un qui est technicien de maintenance, on en reparlera, un qui est technicien de maintenance au centre spatial guyanais à Kourou, donc qui s'assure que en fait, les lancements de fusées fonctionnent bien, et un autre qui est ouvrier de la raffinerie à Donge, la raffinerie de Total.
Donc après, vous avez vivre dans une cinquième partie, vivre dans le nouveau monde, ça c'est pour nous donner un peu d'espoir.
Ouais. Non, ça c'est plutôt revenir sur les droits fondamentaux un petit peu, où on en est de droits fondamentaux, se nourrir, se loger, se déplacer, qu'est-ce qu'on peut dire de ça aujourd'hui en France.
D'accord. Sixième partie, opposition. Donc comment est-ce qu'on s'oppose à ça avec toutes les ambiguïtés, puisque ça peut être l'opposition, on peut penser qu'elle vient de droite comme elle vient de gauche. Donc ouais, des précisions. Néolibéralisme autoritaire, donc ça c'est amusant parce que c'est une idée qui est devenue un petit peu à la mode, il y a pas si longtemps que ça. Donc ça, ce serait aussi pour expliquer en quelque sorte le virage des différents pouvoirs qui jusqu'ici se présentaient comme des formes de libéralisme économique et politique. Et de fait, plus le libéralisme économique s'accroît, plus le côté politique décroît, je pense. C'est un peu l'idée.
Ouais, après, même sur le volet économique, hein, y a aussi beaucoup d'autoritarisme en économie.
Ah bah
c'est-à-dire
oui.
qu'en fait, c'est un peu une fiction hein, de penser que le libéralisme, c'est le laisser-faire économique. Quand il s'agit de construire un aéroport ou un barrage, on envoie les forces de l'ordre. Mais... S'il y a des oppositions, on n'hésite pas à user de la force pour que le projet ait lieu.
Et puis même, il faut beaucoup de, comment dire, il faut beaucoup de textes de loi pour déréguler un truc. Ensuite, il y a une huitième partie que tu apprécies particulièrement, c'est mythologie. Donc ça, bon, référence à Roland Barthes, je suppose.
Bien sûr.
Et donc la mythologie, c'est globalement dans quel, dans quel paysage, en quelque sorte un peu imaginaire, on vit actuellement.
Alors on a aussi bien des objets comme le SUV, pareil. On a des objets comme le colis. On a écrit Camille Beauvais et moi-même. On a des politiques, des types de politiques, par exemple la végétalisation, ou le management, ou des pratiques. Donc on a des objets, des pratiques, des lieux, des expressions, et on essaye à chaque fois de les déconstruire pour voir ce qu'elles racontent de notre époque.
D'accord. Et donc ouais, c'est vraiment le nouveau monde, c'est-à-dire au sens où vous ne cherchez pas forcément à produire une théorie politique, ultra carré, ultra cohérente, mais où vous allez chercher plutôt à faire la cartographie du monde que le néolibéralisme a produit et dans lequel on vit sans forcément s'en rendre compte.
C'est ça.
Ah, ça après, il faudra revenir sur le colis, votre article, toi et Camille, mais.
Alors donc, en fait, effectivement, il ne s'agit pas d'un. Il s'agit bien sûr d'un livre politique, mais sans recette politique ou sans proposition politique. Pour une raison simple, d'abord, c'est qu'en fait, il y a 80 contributeurs.
C'est ce que j'avais posé la question. Est-ce que tu peux dire un mot là-dessus, peut-être essayer de
effectivement, il y a 80 contributeurs dans l'ouvrage. C'est quand même une prouesse éditoriale d'arriver à réunir 80 auteurs sur des sujets extrêmement différents, dont le point commun est le néolibéralisme. Et parmi ces 80 auteurs... Il y a des sensibilités politiques différentes, on va dire. Dans le spectre de la gauche, il y a des gens assez différents. Donc ça va du situationnisme à la social-démocratie, en passant par le communisme.
Vous avez laissé la parole à des Socdem.
Ouais. Il y a un article d'Arnaud Montebourg, j'ai vu.
c'est de la calomnie, il n'y a pas d'article d'Arnaud Montebourg.
Mais donc voilà, donc c'est pas un livre programmatique. D'abord, ça, c'est pas un livre programmatique, c'est un livre qui fait l'état des lieux. Dans différents domaines, charge aux lecteurs de faire leur choix politique.
Et du coup, sur les contributeurs, est-ce que tu peux préciser un petit peu aussi ? Toi, par exemple, tu as une formation de géographe, mais il y a aussi des économistes,
des historiens, des sociologues,
des éditeurs, etc.
Voilà. Alors, ce qui est important, c'est qu'il y a des contributeurs qui ont différents statuts. Il y a des spécialistes, des chercheurs, il y a aussi des praticiens. Donc il y a des médecins qui expliquent ce que c'est que l'urgence aujourd'hui. Il y a des syndicalistes. Il y a des militants, il y a des écrivains. Donc en fait, il y a des gens qui ont un statut un peu différent et qui parlent d'un point de vue un petit peu différent. C'est ça qui fait la richesse, à mon avis, de l'ouvrage. C'est que ce n'est pas un livre d'universitaire. En tout cas, pas seulement. Donc il y a des universitaires, mais il y a aussi des militants, il y a aussi des travailleurs, il y a aussi...
Alors, on va peut-être passer, maintenant qu'on a présenté le bouquin, on va peut-être passer à ton prologue. Parce que, bon, évidemment...
Qui n'est pas une préface.
Qui n'est pas une préface. Parce que tu comme tu as refusé de nous rendre service, évidemment, tu n'as pas fait une préface qui ferait une espèce de synthèse des 1000 pages qui suivent. Franchement, tu abuses. En revanche, là où tu nous as rendu service, c'est que, dès le début de ton prologue, qui n'est pas une préface, tu cites Élisée Reclus, qui est une grosse référence dans ces murs, puisque c'était un géographe anarchiste, un petit peu comme Kropotkin. Je ne sais pas ce que vous avez, vous, les géographes, mais il faudrait quand même vous surveille un peu plus, parce qu'il y a quand même beaucoup d'anarchie chez les géographes. Je ne sais pas s'il y a un lien. Il faudrait faire une étude bourdieusienne là-dessus. Est-ce que tu pourrais... Alors, sur le prologue, je l'ai trouvé vraiment intéressant, parce qu'on a l'impression que alors moi, j'y connais absolument rien en géographie, en dehors de mes quelques études il y a très très longtemps, mais c'est de la géographie humaine. Qui, à travers la description, des lieux, des paysages aussi, et des endroits où les gens vivent et travaillent et produisent, t'essaies de dresser une espèce de premier tableau de la France qui va partir des montagnes et qui va s'achever en Guyane en passant par la Réunion. Donc il faut suivre parce que le voyage est rapide, hein, c'est en quelques pages. Mais comment dire, qu'est-ce que t'as voulu, qu'est-ce que t'as voulu transmettre à travers ça? Parce que il y a vraiment l'idée que il y a un petit côté quand même désespérant, mais un peu.
Ouais,
c'est pas que. Enfin, c'est.
Bon, d'abord, l'idée c'était de donner un peu un cadre un peu comme un peu comme au théâtre ou au cinéma, c'est-à-dire de planter le décor en fait de cette France néolibérale et de passer par le paysage, par ce qu'on voit, par ce qui nous environne, par notre cadre de vie, et donc de planter le décor en essayant de faire un état des lieux successif de tous les milieux, de tous les types d'espaces qu'on peut trouver en France. Et ce qui m'a effectivement beaucoup inspiré, c'est les textes d'Élisée Reclus. C'est Histoire d'un ruisseau, Histoire d'une montagne, qui sont des grands textes de la fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle. Concrètement, dans Histoire d'un ruisseau, Élisée Reclus, il prend un torrent de ses sources montagnardes, et puis jusqu'à l'estuaire, il va décrire tout ce qu'il observe au cours de ce ruisseau qui devient rivière, puis qui devient fleuve. Et donc toutes les transformations économiques qu'il peut y avoir, et toutes les dynamiques géophysiques qu'il observe. Donc c'est une manière de faire de la géographie qu'on a un peu perdue, pour des raisons épistémologiques. Hein, c'est que par exemple en France, la géographie, elle s'est vraiment scindée entre une géographie humaine et une géographie physique, et que la géographie physique s'intéresse vraiment aux processus d'érosion, aux processus qui sont vraiment propres aux dynamiques terrestres, alors que la géographie humaine va s'intéresser aux structures du capitalisme, à la géographie de l'emploi, à la géographie de l'alimentation. Il n'y a plus le lien entre les deux. En fait, c'est un peu dommage à l'époque qu'on traverse, où on se rend compte que la nature, les écosystèmes, en fait, sont là malgré nous, seront là après nous, ils interagissent avec nous, et y a des boucles de rétroaction qui nous concernent.
Ouais. Ta description des montagnes, qui commence par un truc que j'avais dû lire quelque part et que j'avais complètement oublié, donc que j'ignorais, qui était que avec toutes les canicules successives, finalement les montagnes sont en train de perdre toute leur neige permanente, et que ça a un impact aussi sur toutes les stations de ski, et que t'as plein de stations de ski qui commencent à être abandonnées.
Ouais, il y en a environ.
Et ça, je ne savais pas du tout ça.
Il y en a environ 120 en France qui sont recensés, c'est gigantesque, hein, des stations qui sont fermées, faute de neige. Alors souvent c'est des petites stations, hein, des stations donc pas très médiatiques, pas très fréquentées, mais quand même, en fait, on constate aujourd'hui en moyenne montagne beaucoup de stations qui sont à l'abandon. Et en fait, du coup, la question se pose pour toutes les stations. Et qu'est-ce qu'on fait dans un avenir proche? Et pour revenir à Élisée Reclus, ce qui est intéressant avec Élisée Reclus, c'est qu'il écrit une géographie très littéraire. Une géographie très sensible.
Très poétique.
Très poétique. Et à mon avis, on peut entrer dans des mécanismes géographiques complexes que par le sensible. Et sinon, ça désespère le lecteur.
Après, t'as tout un. Évidemment, tu vas aussi parler des. Comment dire. Bon, c'est un texte que je vous recommande parce qu'après, bon, tu partais sur les forêts, l'impact de la. Comment dire. Du transport sur les forêts, avec les. Comment dire. Les arbres qui se. Il y a l'impact du climat sur les forêts.
Ouais.
Ça, c'est quelque chose que la plupart d'entre nous ignorent.
Ouais, avec le réchauffement climatique, c'est sûr qu'on va assister à un bouleversement dans la répartition des essences forestières. C'est qu'en fait, des essences forestières qui étaient liées à un milieu méditerranéen, par exemple, vont avoir tendance à remonter vers le nord.
C'est
ça. Et donc, en fait, il ne va pas y avoir disparition au sens strict de certaines espèces. C'est simplement qu'elles vont recoloniser des espaces ou coloniser des espaces qu'elles ne colonisaient pas autrefois. Et donc, il va y avoir un déplacement dans la carte de France des espèces. Donc, dans les 50 années à venir, 100 ans à venir, il va falloir redessiner la carte des forêts françaises.
Et puis des espèces.
Et donc des
espèces
essences.
Présentes. D'accord.
Des essences. Après, avec la mondialisation, c'est sûr qu'on on importe, malgré nous, en fait, des germes pathogènes qui arrivent dans les containers, qui arrivent dans les caisses en bois. Et donc, on se retrouve confronté à des champignons ou des germes qui envahissent les massifs forestiers. Et il faut faire face à ça.
Ouais. Je vois, d'une certaine manière... tous les politiques qu'on a ces temps-ci ont tendance à nous faire croire que l'économie c'est une espèce de science naturelle et à dissocier complètement notre activité de ce qu'il y a dans la nature. Et là, tu suis un chemin inverse. C'est parce que tu vas relier les transformations naturelles à des choix politiques qui en fait ne sont pas naturels.
C'est ça, l'idée c'est de montrer un peu la place de l'homme, en fait, la place des êtres humains, des activités humaines dans les transformations qu'on observe. Il y a un petit point, alors là c'est pas explicite dans le texte, mais il y a eu un débat ces dernières années sur la notion d'anthropocène. Où on dit que bon bah voilà, on est entré dans une ère géologique où finalement les activités humaines sont les principaux facteurs de transformation sur le globe terrestre. Certains chercheurs on dit attention, il faut être précis dans les termes. C'est pas l'anthropocène au sens où c'est pas l'homme en général, c'est plutôt le capitalocène. C'est le capitalisme industriel qui, depuis 200 ans, on va dire, défigure la face de la Terre.
Après, moi, j'avais lu des choses là-dessus qui commençaient à dire que nos ancêtres préhistoriques avaient déjà, comment dire, utilisé le feu pour, comment dire, pour, ils avaient brûlé des quantités incroyables de terrain parce que ça modifiait le truc à leur avantage, et certains proposaient de faire commencer une espèce d'anthropocène faible, genre il y a 200 000 ans.
Ouais, bah, en fait, d'une certaine manière, depuis le néolithique, en fait, les sociétés humaines transforment leur milieu. Depuis le néolithique, en fait, il y a, entre l'homme et la nature, il y a des artefacts, il y a des outils, les êtres humains, les sociétés humaines prennent possession de la nature et l'aménagent, la transforment, etc. Donc ça, c'est pas nouveau, le fait qu'il y ait des interactions homme-nature. Ce qu'il y a de nouveau, c'est des logiques de prédation, des logiques de concentration, des logiques d'exploitation, et qui prennent des ampleurs et des échelles qui, là, pour le coup, sont nouvelles.
Et puis attends, je vais finir. Un dernier mot sur la Guyane. Parce que j'ai beaucoup aimé ton truc, parce que tu vois, quand on est un peu ignorant, on se dit mais qu'est-ce qu'on fout encore en Guyane, quoi. Et attends, tu regardes une carte du monde, tu vois un petit truc. Ah, c'est la France, ça. Au milieu de la forêt amazonienne. Enfin, pas, mais. Et j'aime beaucoup ta petite phrase là sur les deux raisons. Rappelle les deux raisons pour lesquelles les trois couleurs flottent encore sur le Nouveau Monde, l'or et les fusées. Mais la France exploite encore beaucoup d'or en Guyane. C'est la France qui exploite ça.
Alors,
il y a eu des projets.
Il y a beaucoup de projets là. Par exemple, il y a des projets sur la montagne d'or,
bien sûr,
qui est suspendu. Mm-hmm. Alors, c'est intéressant le projet sur la montagne d'or, parce qu'il est très controversé, y compris parmi la population guyanaise. Hein. Par exemple, les indépendantistes, une partie des indépendantistes guyanais voient pas d'un mauvais œil ce projet, parce qu'en fait, c'est une source d'indépendance financière. En fait, dans l'hypothèse d'une Guyane indépendante. Ouais. Donc l'extraction de l'or, c'est historiquement les raisons pour lesquelles la France est en Guyane, mais encore aujourd'hui, on voit que la Macronie est bien embêté avec ça et aimerait bien pouvoir continuer à ouvrir des gisements, à exploiter des gisements. Alors, ce ne sera pas forcément les entreprises françaises qui exploiteront, hein, ce n'est pas grave. Mais oui, effectivement, l'or, c'est encore une actualité en Guyane.
Et pour l'État français. Et puis avec les fusées.
Et avec les fusées, oui.
D'accord, donc c'est pour ça qu'on maintient notre puissance coloniale jusqu'ici.
Alors, je dirais davantage que les fusées que l'or, mais davantage, c'est une réalité. Ouais.
Donc voilà, paysage français, donc le prologue dans le Nouveau Monde, donc qui va des montagnes et des stations de ski abandonnées jusqu'aux fusées guyanaises.
Bon, je vous pose une première pause musicale peut-être, avant de s'attaquer à la suite, et il y a fort à faire. Donc on fait une première pause dans cette émission. We'll be right back. bonsoir à vous, chers auditeurs. C'est Jeudi Noir qui commence sa deuxième partie, toujours sur Radio Libertaire 89.4, la voix de la Fédération anarchiste, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. Et dans Jeudi Noir, ce soir, on a le plaisir d'accueillir Gatien Elly qui nous parle d'un livre qui vient d'être édité aux éditions Amsterdam, qui s'appelle Le Nouveau Monde, tableau de la France néolibérale, une espèce de panorama assez impressionnant par son ampleur sur les différents aspects de cette France dans laquelle nous vivons après 40 ans de néolibéralisme. Alors, dans la première partie de l'émission, Gatien, tu nous as parlé de... Tu as notamment présenté le prologue que tu as rédigé pour ce texte-là, une espèce de présentation géographico-poétique, descriptive et suggestive des territoires de la France d'aujourd'hui, dans cette période-là. On a commencé à présenter un peu le projet du livre, mais juste citer peut-être quelques contributeurs pour donner aussi une idée de la variété des approches et de la variété des angles qui sont adoptés dans le livre. Donc tu l'as dit, toi tu es géographe de formation, Gatien, mais on trouve aussi des économistes comme Frédéric Lordon, des romanciers comme François Bégodeau, des militants politiques, même des hommes politiques, il y a un texte de Ruffin, il y a un texte des éditeurs, on a par exemple Thierry Dissépolo des éditions Agone qu'on connaît bien ici dans l'émission, des historiens, des historiennes, Mathilde Larère notamment, Christophe Bonneuil, donc un des théoriciens de l'anthropocène dont tu parlais, sociologue comme Gérard Moget. Donc il y a en fait une très grande diversité des approches. Johan Chapoutot aussi, toujours du côté des universitaires historiens.
Raphaël Kempf qui est avocat.
Donc là pour le coup, il y a une très grande diversité des approches des journalistes, des militants, des praticiens, des universitaires, des romanciers, tu l'as dit. Et c'est vrai que je pense qu'il faut aussi le signaler ça à nos auditeurs, parce que ça donne une très grande diversité des approches, des styles, des angles. Et le livre, la manière dont il est construit, on en a parlé tout à l'heure, amplifie ça, bien sûr. Alors, je relaisse peut-être la parole à Michel. Tu voulais insister peut-être sur certains points aussi du texte qui t'avait particulièrement marqué.
Le texte de Gatien
qu'on a sous la main. On va pas le laisser partir
puisque,
comme ça.
C'est des choses qui t'intéressent depuis longtemps, puisque tu as évoqué ton bouquin sur la plaine et sur le productivisme français. Donc, c'était les terres de...
En Beauce.
C'est ouais. Ça où on produit l'essentiel des céréales françaises, non?
En tout cas, c'est un des grands bassins de production.
C'est un des grands bassins de production.
De céréales.
Un bouquin où c'était presque de l'enquête sociologique, là.
Ouais.
Et là, donc, t'es parti de la plaine où on prenait le blé et tu t'es intéressé à la façon dont on se nourrissait.
Ouais.
Et donc, une de tes contributions à l'ouvrage, donc, c'est cet article sur se nourrir, qui est assez, alors, si on est informé un petit peu là-dessus, on en apprendra davantage, je pense. Mais justement, là-dessus, quelle était ta perspective dans cet article? C'est-à-dire que tu essaies de montrer comment peut-être la question de la nourriture, qui a toujours été traversée par des questions politiques d'égalité et d'inégalité, c'est-à-dire que c'est pas nouveau que les riches et les pauvres n'ont pas accès au même type de nourriture, ni à la même qualité de nourriture. Je crois me souvenir que quand on a universalisé le service national en France, on s'est rendu compte que, par exemple, les aristocrates et les bourgeois étaient plus grands que les prolos. Qu'il y avait une petite différence de taille et que, par exemple, quelque chose qui pouvait sembler naturel, comme la taille du corps, était en fait déterminée économiquement et politiquement par la position sociale, puisque les plus riches avaient accès à plus de nourriture grandissaient davantage. Et là, donc, tu essaies de politiser, alors dis-moi si je me plante, mais tu essaies de repolitiser la question de la nourriture à partir du néolibéralisme actuel, parce que ce qui se passe aujourd'hui n'est pas identique à ce qui se passait au 19e siècle, où tu trouvais des bourgeois et des aristos plus grands que les prolos.
Ouais. Alors, l'article, il a plusieurs ambitions. C'est d'abord rappeler que la faim existe en France. D'abord, quand même, c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez, c'est qu'en fait, il y a encore des gens qui ont faim en France. Alors, c'est une faim qui est beaucoup moins spectaculaire qu'on peut l'avoir dans des pays en développement. C'est pas une faim qui est médiatisée, c'est pas une faim qui va faire intervenir les associations de Médecins Sans Frontières ou autres.
On ne verra pas un ministre avec un sac de riz sur l'épaule en France.
Voilà. Voilà. En revanche, quand on lit les rapports d'ADT Quart-Monde, quand on lit les rapports du Secours Populaire, quand on lit les rapports de, en fait, de toutes les associations qui interviennent pour apporter des repas, apporter des, faire de l'aide alimentaire, en fait, on se rend compte qu'il y a une partie des gens en France qui n'arrivent pas à se nourrir correctement. Alors, c'est en termes de quantité, mais c'est aussi en termes de qualité. En fait, quand on regarde comment mangent les classes populaires en France, bah évidemment, ils mangent mal. Il y a une inégalité d'accès pour la diversité alimentaire. Et ce qui est terrible, c'est qu'en fait, l'alimentation est plus que jamais devenue la part variable dans le budget d'un ménage. C'est qu'en fait, on rogne beaucoup sur l'alimentation. Et ça, les sociologues montrent qu'aujourd'hui, l'alimentation, la part de l'alimentation dans le budget d'un ménage, elle ne cesse de réduire. D'année en année, plus on augmente dans le temps, c'est-à-dire qu'en fait, quand on prend le budget d'un ménage type et qu'on regarde les postes de dépenses, on se rend garde que finalement, proportionnellement, on dépensait plus pour l'alimentation il y a 20, 40, 60 ans qu'aujourd'hui. Pour une raison simple, c'est qu'en fait, les raisons de dépenser dans le monde tel qu'il est aujourd'hui se sont multipliées.
Ah, c'est curieux parce que j'avais cru lire que globalement la part des dépenses pour les choses nécessaires type logement, vêtements, nourriture avait baissé et avait une place plus grande pour le divertissement.
C'est ça. C'est qu'en fait quand on.
Ok, mais tu peux l'inverser, c'est-à-dire tu peux le lire ça comme du genre les choses nécessaires sont moins chères et donc les gens achètent plus de choses pour s'amuser, mettons. Et en fait, tu peux le lire aussi comme les gens mangent moins parce qu'ils doivent se payer un téléphone portable.
Voilà, il y a les deux. Alors voilà, ça dépend comment on l'interprète. Après, il faudrait faire des enquêtes qualitatives pour demander aux gens comment est-ce qu'ils allouent leur salaire, quand il faut le dépenser. Mais donc d'abord, ce qui est sûr, c'est que c'est devenu une part variable en fait. C'est là-dessus qu'on va faire des économies. C'est sur l'alimentation qu'on peut essayer de trouver des marges de manœuvre en fait. Et c'est vrai que la grande distribution est très forte pour ça. En fait, elle propose de l'alimentation à un prix défiant toute concurrence. Je liste un peu tous les rabais, tous les soldes, toutes les réductions qui peuvent exister aujourd'hui dans la grande distribution.
Ce que tu dis, c'est que, et ça c'est intéressant peut-être par rapport à la perspective du néolibéralisme, c'est que le prix des denrées alimentaires est complètement déconnecté des coûts de production. Mais donc aussi de l'offre et de la demande d'une certaine manière, et tout va reposer sur en fait le fait de rentrer vaguement dans ses frais parce qu'il ne faut pas stocker.
Voilà, il y a la question de la quantité de stock disponible et de la capacité des acteurs de l'agroalimentaire à stocker ces stocks. Par exemple, un supermarché, il a 3 jours de stock devant lui, pas plus. Donc en fait, si jamais l'Île-de-France est bloquée pour X raisons, il y a 3 jours de stock dans les supermarchés. Donc en fait, effectivement, la question du prix de l'alimentation est déconnectée de la quantité stricte. Elle est plus liée à la gestion des stocks. Donc, la première ambition de l'article, c'était de revenir un peu sur le problème de l'accès à l'alimentation. Qui peut manger quoi ? La deuxième ambition, c'était de montrer à quel point l'alimentation est aussi devenue une distinction sociale, une forme de distinction sociale. Comment est-ce que, en fonction de comment on mange, on se définit dans telle ou telle catégorie sociale, avec telle ou telle pratique, etc. Et c'est vrai qu'en fait, l'alimentation, c'est un des lieux où on se représente avoir encore une marge de manœuvre, un peu de pouvoir. En l'absence de politique de régulation, en l'absence de grande politique, on ne peut pas dire que l'alimentation, ce soit une politique prioritaire, ni au niveau national, ni au niveau européen. Bon, en l'absence de prise en charge politique de cette question, chacun en est réduit à lui-même à faire ses choix alimentaires quand il est au supermarché, quand il est à la MAP, quand il est à la Biocoop, quand il est machin. Et donc là, on a le sentiment d'avoir une petite marge de manœuvre. Ça peut être bien intentionné, ça peut être politique, ça peut être juste pour des raisons de goût, ça peut être pour des raisons ésotériques, ça peut être pour l'orthorexie alimentaire avec tous les régimes qui sont inventés en permanence. Mais le fait est que on se rend compte qu'il y a vraiment une volonté de se positionner dans le champ social et dans le champ politique en fonction de sa manière de s'alimenter. Et ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau dans la mesure où c'est revendiqué aujourd'hui. Quand on regarde la liste incroyable et infinie de tous les régimes alimentaires qui existent aujourd'hui, c'est complètement sidérant. Ce qui montre bien que, quand je dis des régimes alimentaires, ça peut être des régimes paléolithiques, ça peut être des régimes... Alors, sans gluten, évidemment, ça peut être...
Michel, il fait ça, lui, au paléolithique, sans gluten. Il a les deux cases. Depuis plusieurs années, déjà, maintenant.
Il y a le houblon, quoi, qui vient perturber les choses.
Donc, on est dans une... En fait, c'est paradoxal, on est dans une société, on va dire, d'abondance. C'est-à-dire qu'on produit énormément. on produit des quantités astronomiques. L'ONU disait qu'on gâche un tiers de ce qu'on produit à l'échelle mondiale. Bon, on est dans une société d'abondance en termes de production alimentaire. Et du coup, on est une société où la question de la sécurité alimentaire, stricto sensu, est pas prégnante pour la majorité des Français. Mais par contre, chacun va chercher à se distinguer dans sa manière de consommer.
Mais ça, après, tu pourrais voir une espèce d'extension à la nourriture de ce que les gens des trucs marketing vont appeler le branding.
Oui.
C'est-à-dire s'individuer à travers sa consommation, c'est-à-dire t'achètes non plus un produit, mais une image que le produit est censé donner. Donc, t'achètes telle paire de pompes parce que ça te donne une allure de rebelle.
Ouais, complètement.
Et donc, là, tu penses que la nourriture, elle est rentrée aussi là-dedans. Donc ce serait une espèce encore d'avatar, de nouvelles techniques.
Alors, c'est à la fois un avatar du marketing pour aller vite, mais c'est aussi, je pense, une réponse à l'impuissance politique, à la multiplication des crises sanitaires et industrielles. On vit quand même dans un monde où il y a régulièrement des scandales industriels dans l'agroalimentaire. Ouais. Et donc face à l'angoisse des consommateurs devant toutes ces crises sanitaires, la réponse, ça va être une réponse orthorexique. On va s'inventer des régimes complètement délirants pour être sûr de se prémunir du capitalisme industriel. C'est quand même assez...
C'est une manière de reprendre le contrôle à l'échelle,
individuelle. Et ça, c'est une marque du néolibéralisme. C'est qu'en fait, chacun s'en remet à des stratégies individuelles face à une industrie qu'on n'arrive pas à réguler dans ses excès, dans ses nuisances, dans ses pollutions, dans ses...
Oui. Dans ces nuisances, là, par exemple, tu cites la santé, ou justement avec les produits super transformés, ce joli passage où tu parles l'escalope,
le cordon bleu.
Donc le cordon bleu, voilà, tu dis c'est 5 ingrédients.
Théoriquement. Quand on le fait soi-même à la maison, c'est 5 ingrédients.
Si tu fais ça chez toi, c'est 5 ingrédients. Et dans l'industrie actuelle, c'en est 30. Ouais. Parce que tu vas pas manger du poulet, tu vas manger. Une bouillie de poulet faite à partir des os, de la peau, d'un peu de chair, de bricole et tout. Et avec chaque produit qui va venir compenser finalement le produit précédent.
Voilà, chaque additif qui va essayer de compenser les désagréments de l'additif précédent. Donc on va corriger l'acidité, on va corriger le gras, on va corriger l'amertume, on va corriger la couleur, on va corriger, etc. avec un additif supplémentaire. Et à chaque fois qu'on ajoute un additif, il y a un nouveau problème qui survient. Donc il faut rajouter un additif. Et c'est sans fin.
Et donc, aussi, c'est l'industrie alimentaire vue comme presque une industrie, source, parce que là, tu rappelles quelque chose que moi, je ne savais pas du tout, qui était que Henry Ford a eu l'idée de la chaîne de montage automobile en visitant les abattoirs mécanisés de Chicago.
Ouais.
Ce qui est...
L'agroalimentaire, c'est un laboratoire pour le capitalisme.
C'est ça, c'est-à-dire que dans les laboratoires, à Chicago, dans les abattoirs... c'était la bidoche qui était sur la chaîne.
Avec un crochet. Les ouvriers traitent les carcasses l'une après l'autre sur des crochets suspendus, etc. Et en fait, effectivement, on peut l'appliquer à l'ensemble des biens manufacturés.
Et donc, ton idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, comme le marqueur néolibéral de ça, de ce virage-là, tu le vois à la fois sur le type de production et la chaîne de distribution aussi, c'est-à-dire les contraintes nouvelles qui pèsent là-dessus, le fait de transférer en fait plutôt l'indice des coûts sur la gestion des stocks. Tu disais, il y a des aspects qui relèvent de ça.
La question des stocks, ouais.
Et la manière dont c'est investi par le consommateur, quoi. C'est-à-dire comme une espèce de petite reconquête de son espace politique à l'échelle de l'individu, quoi. Comme on est impuissant sur le reste, au moins ça, on va pouvoir se garantir une santé,
Et j'ai envie de dire que c'est des réactions qui sont tout à fait compréhensibles face à l'absence de régulation, face à tous les scandales sanitaires, l'incapacité en fait de réguler l'industrie.
Alors un petit mot sur le bio avant une pause musicale, parce que tu as une petite phrase assez assassine qui est pas mal, je trouve. Le consommateur sous-paye les produits de l'agriculture conventionnelle. Le coût environnemental n'étant jamais indiqué, et surpaye le bio. Un petit mot là-dessus?
Ouais, en fait, on croit faire des économies en achetant des produits pas chers. Enfin, parfois, on est contraint. On fait des économies en achetant des produits moins chers de l'agriculture conventionnelle, l'agriculture productiviste. Et c'est vrai que l'agriculture productiviste parvient à produire en très grande quantité pour pas trop cher, a priori, quand on est au supermarché. Ce qu'on ne voit pas, c'est tous les dégâts qu'il va falloir payer, que d'autres acteurs payent.
Ça, les externalités négatives.
Exactement. Qui n'entrent pas dans le prix de
la consommation. Et le bio. Donc tu dis, on surpaye le bio.
En fait, c'est que pour l'instant, c'est un produit de niche qui coûte très cher parce que, en fait, toutes les filières ne sont pas organisées autour du bio et que pour l'instant, ça reste encore des produits qui sont plus chers. que les autres.
J'aime bien le parallèle. Côté on sous-paye, de l'autre côté on surpaye. Donc on va faire une petite pause musicale et puis ensuite on va aborder la troisième et dernière partie de l'émission.
Por mi coco pasa un tren.
Y hace tiempo que perdió la vía.
Mi cabeza no va bien. Con el chaca chaca chaca. Chaca chiqui chaca. Chaca chaca chiqui cha.
Bonsoir à tous, c'est Jeudi Noir qui reprend pour sa dernière partie sur Radio Liberté à 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. Vous venez d'écouter un morceau de la Pola Records qui s'appelle Mundo Cabron, chanson en basque de 99, et comme je les ai un peu oublié tout à l'heure, le morceau précédent c'était un morceau de Spectre qui s'appelait Vision of a New World. Ce qui nous amène directement au livre dont il est question ce soir. Quel hasard, quel heureux hasard. Ce livre qui s'appelle Le Nouveau Monde, tableau de la France néolibérale, qui vient d'être édité par les éditions Amsterdam. Et nous reprenons donc cette dernière partie de l'émission avec Gatien Eli, qui est un des contributeurs et l'auteur du prologue, notamment de ce livre somme, hein, sur tout un tas d'aspects de la France dans laquelle nous vivons aujourd'hui, après 40 ans de néolibéralisme. Je laisse la parole à Michel pour cette dernière partie de l'émission consacrée au deuxième article présenté par Gatien, autour donc dans essayer de tirer de la partie, donc la huitième partie, mythologie, donc sur un certain nombre d'objets allégoriques de cette France néolibérale. Il s'agit ici de nous parler du colis, je crois.
Oui. Alors, qui a été coécrit donc par Gatien et Camille, qui est présente dans le studio mais qui veut pas parler, donc on l'obligera pas à parler. Et voilà, on t'a cramé. elle voulait être là en scred. Et alors, c'est vrai que c'est intéressant aussi si on veut définir comment définir une époque. Tu vois, les philosophes ils sont vachement attachés à ça, et souvent les philosophes ils prennent les choses complètement à l'envers. Ils vont voir la métaphysique d'une époque et ils disent à l'époque c'est sa métaphysique. Mais on peut aussi, d'une manière bien plus empirique, vraiment essayer de définir une époque par ses objets. Moi je me rappelle dans ma folle jeunesse, souvent j'attendais des courriers. On m'envoyait des lettres, et je renvoyais des lettres. Et donc tu envoyais une lettre, il n'y a pas de SMS, il n'y avait pas tous ces moyens d'angoisser à vitesse grand V en échangeant des malentendus. Tu angoissais lentement en échangeant une lettre toutes les semaines. Et c'est vrai que la lettre, par exemple, ça fait partie des objets qui ont disparu. On n'attend presque plus de lettres, c'est rarissime. Par contre, on va très très fréquemment recevoir quoi ? Des colis. Et hier encore, j'avais un super colis chez mon gardien, c'était trop top. Mais justement, cette espèce de... dans votre article, vous montrez que c'est un objet qui, d'une certaine manière, fait époque. le colis. Parce que il s'agit pas simplement d'aller chercher un truc chez notre gentil ou notre méchant ou notre méchante gardienne. C'est le colis, ça suppose finalement de nouveaux circuits de distribution, ça suppose de nouveaux circuits de stockage, ça suppose de nouveaux modes d'emploi, enfin d'employabilité ou pour employer les gens. Ça suppose une réorganisation. C'est un petit peu comme ce qu'on évoquait là, le branding. Le branding, c'est pas que de la pub. C'est aussi une restructuration de l'appareil productif et du marché de l'emploi.
Hein, complètement. On est dans ce qu'on pourrait appeler un stade logistique du capitalisme, en tout cas dans les pays dits développés. On est en stade logistique où, en fait, on produit peu, c'est vrai, on produit peu sur le sol français, comparé aux 30 Glorieuses ou au début du XXe siècle. On produit peu, en revanche, on achète beaucoup et on échange beaucoup. Et donc, on fait circuler la marchandise. Et donc, il y a besoin d'entrepôts, il y a besoin de travailleurs. En fait, les nouveaux ouvriers aujourd'hui, c'est les salariés d'Amazon qui font de l'empaquetage, qui collent des étiquettes, qui font du tri, et les livreurs. Des livreurs qui tous les jours dans leur camionnette courent après le temps, après la montre pour livrer le plus rapidement possible. Donc ça c'est peut-être une des nouvelles facettes de la classe ouvrière aujourd'hui. En France, la classe ouvrière c'est celle du monde du colis, que ça soit dans les entrepôts d'Amazon ou que ça soit les livreurs. Donc on est bien dans un stade logistique. Ce qui est intéressant avec le colis, c'est que autrefois le colis, c'était, comme on le montre avec Ami, c'était un objet qui était très rare. C'est un objet qui était en période de crise, en période d'éloignement, donc en période de guerre, en période de, quand on est blessé, c'est le colis humanitaire, c'est le colis en fait de l'urgence, c'est le colis de l'exceptionnalité. C'est pas le colis de l'ordinaire. Là, c'est devenu l'ordinaire du consommateur dans une France néolibérale. Et ça s'est facilité par les outils de la technologie. Hein. Enfin, on peut commander à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, et on sait qu'on sera livré en temps et en heure à peu près. Et sinon, on fait un scandale. Du coup, c'est un objet qui correspond bien à un stade, le stade de la logistique, le stade des nouvelles technologies.
Il y avait l'impérialisme, stade suprême du capitalisme. Ouais. Maintenant, il y a le colisme, stade suprême de l'amazonisme.
Effectivement, ça dit beaucoup de choses. Alors, faire la biographie sociale d'une marchandise, c'est un truc qui est un peu à la mode dans l'édition. Il y a plein de bouquins sur qui prennent un objet, qui le décortiquent, qui montrent à quel point ça raconte quelque chose d'une époque. Bon, ça marche plus ou moins bien selon les objets. Nous a semblé avec Camille que sur le colis, ça marchait assez bien. Parce qu'on peut à la fois évoquer le stade logistique du capitalisme, les travailleurs, les nouveaux travailleurs qui sont complètement invisibilisés de cette économie-là, des nouvelles manières de consommer. On est quand même dans l'ère du caprice. Quand même, c'est pareil sur l'alimentation. Hein. Là, la dernière mode, c'est de se faire livrer en un temps record. Hein. En 5 minutes, on peut être livré de son moindre caprice alimentaire. Donc, il y a des applications qui vous garantissent le fait d'avoir une tablette de chocolat en moins de 5 minutes chez vous.
Pour ton apéritif.
Ou pour l'apéritif. Donc, on est quand même dans le stade caprice du capitalisme.
Et aussi, tu mentionnes le fait que le colis va aussi avec une disparition des commerces de proximité, par exemple. C'est-à-dire que tu peux être paumé dans ta campagne, tu as toujours ta 4G et commander ton truc et ça te sera livré.
Effectivement, ça a un côté assez rassurant de ce point de vue-là, c'est que pour plein de consommateurs qui voudraient s'éloigner des métropoles, etc., ils savent que de toute façon, ils pourront être livrés assez facilement. Si on est connecté, on pourra toujours être livré. Alors après, nous, on évoque un cas qui est assez paradoxal dans le livre, c'est le cas d'un libraire qui fait dépôt de colis. Il lui dit, moi j'accepte de faire dépôt de colis parce que justement ça fait venir des gens dans ma librairie. Et donc les gens viennent retirer leur colis, mais en fait ils en profitent pour regarder, fureter, acheter un ou deux livres, acheter un peu de papeterie. Et en gros, sur une dizaine de personnes qui viennent chercher ces livres, il y en a toujours un, deux ou trois qui repart avec autre chose que son colis. Et puis les gens connaissent la librairie, etc. Donc en fait, il ne le fait pas pour des raisons économiques, il le fait pour des raisons de visibilité, pas pour vendre. Parce qu'en fait, on ne gagne pas grand-chose avec un colis. Hein. C'est quelques centimes par colis. Donc il faudrait vraiment que ça soit l'essentiel de son commerce pour en vivre. Il nous dit que ça lui rapportait, je sais plus, 300 euros, je crois, par mois. C'est pas grand-chose, en fait. Non, c'est plutôt pour faire connaître sa librairie. Il me dit, voilà, moi, je sais que ça permet à ma librairie d'exister. Pour plein de gens, parce qu'ils y viennent et puis après ils vont y revenir. Et alors pour aller plus loin dans cette histoire de librairie là, dans le même quartier, il y a le bureau de poste qui a failli fermer. Finalement, grâce à la mobilisation des habitants, des organisations politiques, le bureau de poste n'a pas fermé. Mais il a failli fermer. Et au moment où on envisageait de le fermer, on a contacté les autorités de la poste, ont contacté ce libraire pour lui demander s'il voulait bien faire le service officiel de dépôt de colis que la poste assurait. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez parlant sur le néolibéralisme. Ouais,
une contradiction.
En fait. On en est là, ouais, voilà.
Face auquel les gens peuvent se retrouver, ouais.
Voilà, c'est ça.
Et donc, il nous reste deux minutes, mais on peut aussi quand même évoquer un très beau morceau de l'ouvrage. Donc là, Le Nouveau Monde, tableau de la France néolibérale aux éditions Amsterdam. C'est la quatrième partie à laquelle tu as un peu contribué, parce qu'il y a énormément de portraits. C'est intitulé Le Monologue des Travailleurs. Mmh. Et toi, tu as fait deux portraits là-dedans. Ouais. Alors, comme je ne savais pas lesquels toi tu avais fait, j'en ai lu d'autres, mais qui sont très beaux et très, à la fois, c'est instructif et touchant. Et puis ça met en contact avec des réalités qu'on ignore parfois complètement. Mmh. Et toi t'as écrit sur qui ou avec qui?
Alors moi j'ai fait deux entretiens avec deux travailleurs, un qui est sur le centre spatial guyanais à Kourou, qui s'occupe de la maintenance énergétique, qui s'assure qu'il y aura toujours l'énergie nécessaire pour faire décoller une fusée. Et un autre qui est un ouvrier de la raffinerie de Donges, la raffinerie Total de Donges, qui est par ailleurs syndicaliste à la CGT. Et du coup, ils m'ont raconté tous les deux à la fois leur parcours, leur quotidien au travail, et puis les problématiques qu'ils rencontraient dans leur boîte, dans le syndical. Et en fait, ce qui est assez touchant avec chacun de ces travailleurs, et c'était déjà le cas dans La Plaine, hein, le bouquin précédent que j'avais fait, où j'avais aussi fait des portraits, c'est qu'on voit que pour beaucoup de gens, il y a des sources de satisfaction au travail. Il y a plein de sources de satisfaction, il y a plein de petites réussites, de sentiments de servir à quelque chose.
Il y a le portrait d'une caissière qui dit exactement la même chose, où elle commence par dire heureusement on serre les coudes, et plus le tableau avance, plus elle raconte son quotidien, et plus elle donne l'impression que c'est l'enfer.
C'est ça. Et en fait, plus les conditions sont difficiles, plus le temps passe, plus en fait on désorganise le travail, on désorganise les postes de travail, on libéralise, on sous-traite, etc. Et néanmoins, les travailleurs parviennent encore à trouver des espaces de réussite dans leur boulot, très souvent des réussites collectives. On parle beaucoup de l'ambiance de travail entre collègues, beaucoup de ces moments, les moments les préférés, moi, des deux entretiens, des deux travailleurs que j'ai interrogés, c'est toujours des moments collectifs. C'est toujours des moments avec les autres. Par exemple, pour l'ouvrier de la raffinerie, c'est le moment où on va prendre son quart, donc il est en 3-8, c'est le moment où il va prendre, son poste à 4h du matin, et où en fait ils font le bilan avec tout le monde de ce qui s'est passé dans le quart précédent. C'est un moment qui est autour du café, il fait nuit en fait, et il faut que les ouvriers précédents aient exposé la diversité des accidents qu'il y a pu y avoir, des incidents qu'il y a pu y avoir, de ce qui fonctionne ou pas. Donc c'est un moment qui est précieux en fait pour le fonctionnement industriel de la boîte, mais qui est un moment très humain, parce qu'en fait les salariés peuvent discuter entre eux de ce qui va bien ou ce qui va pas. Bon, la boîte cherche à casser ce genre de moment, parce que c'est un moment où les ouvriers discutent entre eux. Et en fait, c'est ça qui est terrible. Un des rares moments, en fait, qui est à la fois utile à la boîte et qui enrichit le poste pour les travailleurs, bah, même ce moment-là, Total cherche à le casser. D'une manière où il explique quelles sont les stratégies pour casser ce moment-là.
Merci beaucoup, Cassien. Et Gatien Eli, parce que il faut donner aussi le nom histoire qu'on vous retrouve. Merci beaucoup Camille.
Merci
même
beaucoup.
Même si elle a rien voulu dire du tout. Et comment? Et donc on vous
le mot de la fin peut-être. Camille.
On vous présentait le Nouveau Monde, tableau de la France néolibérale aux éditions Amsterdam. Donc un gros pavé de 1000 pages, mais avec plein de petits textes très très abordables. C'est fait pour être lu par des gens qui ne sont pas uniquement des universitaires. Et qui ont envie aussi peut-être de comprendre un petit peu ce qui se passe dans le monde actuel. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve peu de temps avant Noël. On fera une spéciale avec José. Une spéciale cacahuète, je pense. Et puis voilà, à plus.
Merci.
As I look at this world, you know, I'm beginning to see that this is not the world that God intended it to be.